messe accapare autant leur attention. Mais souvent tout à fait intentionnel. Les plans d'affaires des médias sociaux reposent dans bien des cas sur un usage compulsif. Mais quelle que soit sa source, cette attraction irrésistible des écrans provoque une perte d'autonomie croissante dans le choix de ce vers quoi l'on dirige son attention. Une perte d'autonomie à laquelle personne, bien entendu, n'a donné son accord. On télécharge des applis et l'on crée des comptes pour de bonnes raisons avant de découvrir, paradoxe amer, que ces services se mettent à saper les valeurs mêmes qui constituaient leur attrait initial. On s'inscrit sur Facebook pour garder le contact avec ses amis à l'autre bout de la planète et l'on se retrouve incapable de soutenir une conversation ininterrompue avec un ami assis de l'autre côté de la table. J'ai aussi découvert l'effet négatif d'une activité en ligne débridée sur le bien-être psychologique. Nombreux de mes interlocuteurs sous-évaluaient la capacité des médias sociaux à manipuler leur humeur. Voir constamment la vie de ses amis présentée sous son meilleur jour engendre des sentiments d'infériorité, surtout au moment où l'on ne se sent déjà pas bien. Pour les adolescents, c'est même un moyen cruellement efficace d'exclusion publique. De plus, comme l'ont démontré l'élection présidentielle américaine de 2016 et ses lendemains, les discussions en ligne semblent accélérer le basculement des participants vers des émotions extrêmes, pesantes et épuisantes. Le techno-philosophe Jaron Lanier soutient éloquemment que la prééminence des sentiments de colère et d'indignation est, en un certain sens, une caractéristique inévitable du médium en ligne. L'attention forme un marché ouvert où les émotions les plus sombres attirent plus de regards que les pensées positives et constructives. Pour les internautes assidus, le contact répété avec cette noirceur peut entraîner un négativisme épuisant. Une connectivité compulsive a donc un prix élevé, or, beaucoup le paient sans même en prendre conscience. Cet assortiment déprimant de préoccupations, surutilisation épuisante et addictive des outils, perte d'autonomie, réduction du bonheur, encouragement aux instincts les plus sombres, détournement d'activités plus positives, m'a ouvert les yeux sur la relation problématique que tant d'entre nous entretiennent avec les technologies qui dominent notre civilisation. En d'autres termes, j'ai bien mieux compris ce que signifiait la lamentation d'Andrew Sullivan « J'ai été un être humain ». Ces échanges avec mes lecteurs m'ont convaincu que l'effet des technologies sur la vie personnelle méritait une plus ample exploration. J'ai commencé à étudier et à écrire plus sérieusement sur ce sujet en essayant à la fois de mieux appréhender ses contours et de rechercher des exemples contraires. Des cas rares de personnes qui parviennent à profiter grandement de ces nouvelles technologies sans perte de contrôle. Certains considèrent comme un handicap le fait que je ne puisse pas vraiment m'appuyer sur mon expérience personnelle. Comment pouvez-vous critiquer les médias sociaux si vous ne les avez jamais utilisés ? Est l'une des objections les plus fréquentes soulevées par mes interventions publiques à ce sujet. Il y a du vrai là-dedans, mais, comme je l'ai compris dès 2016 en commençant cette investigation, mon statut de marginal a aussi ses avantages. En abordant notre culture techno sous une perspective nouvelle, je suis peut-être plus à même de faire le tri entre supposition et vérité et entre usage significatif et manipulation. L'une des premières révélations au cours de cette exploration est que notre relation en ligne avec ces outils est compliquée parce que leurs méfaits et leurs bénéfices sont imbriqués. Les smartphones, l'Internet sans fil omniprésent, les plateformes numériques qui relient des milliards de personnes, voilà des innovations triomphantes. Il n'y a pas grand monde pour soutenir sérieusement que nous ferions mieux de revenir à une ère technologique antérieure. Mais en parallèle, les gens ont l'impression d'être devenus esclaves de leurs appareils, et ils en ont assez. De cette réalité naît un paysage psychologique bigarré, où l'on peut tout à la fois se réjouir de découvrir des photos admirables sur Instagram et maudire la colonisation par la même application de soirées autrefois consacrées à la lecture ou à des conversations entre amis. Face à ces complications, la réaction la plus commune consiste à envisager des trucs ou des astuces modestes. Peut-être vous suffirait-il de respecter un sabbat numérique, d'éloigner votre téléphone de votre lit la nuit, de désactiver les notifications et de vous promettre de faire plus attention pour conserver les bienfaits qui vous ont attiré vers ces nouvelles technologies tout en limitant leurs effets les plus graves. Cette approche modérée est séduisante puisqu'elle vous épargne des décisions difficiles sur votre vie numérique. Nul besoin de